première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là. Faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Et bonsoir, il est 19h03 et vous êtes à l'écoute du Canu Info du lundi 4 novembre 2024. Et tout de suite, on commence par les titres.
Alors, on commencera cette émission par une petite éphéméride spéciale 4 novembre. À l'international, ensuite, on parlera de la responsabilité criminelle du gouvernement local d'extrême droite de Valence dans le désastre humain en cours. Et on continuera avec un point sur Volkswagen en Allemagne qui fait payer les travailleurs des erreurs du patronat.
Et au national, on parlera de l'expulsion groupée vers l'Albanie, du budget 2025 et notamment du budget de l'armée, du SNU qui est supprimé par le Parlement mais maintenu par Emmanuel Macron et de la victoire FSER.
Et on continuera au national avec une petite brève sur Patrick Hetzel qui veut exclure des étudiants de Sciences Po. Et on fera un petit retour sur la manif qui s'est déroulée à Lannemezan il y a une dizaine de jours. On terminera l'émission par une interview du collectif Anticrac qui a pas mal de news à nous transmettre. Mais on commence tout de suite par la citation de la semaine.
Mais vous verrez, elle vaut son pesant de cacahuètes, hein, disons-le comme ça. Elle nous vient tout droit de l'émission de la très macroniste Léa Salamé. Et je vous laisse le plaisir de l'écouter.
On sent qu'il y a une minorité qui emmerde une majorité. Donc c'est vrai que moi...
Ça, c'est le moment où vous me fermez les
yeux. Non, je ne vais pas aller dans le sens du wokisme et du néo-féminisme et du véganisme et de tous des trucs en isme qui nous emmerdent.
Voilà, alors c'était qui ?
C'était... Moi, je sais déjà qui c'était. Donc...
Bon, c'était ce gros beauf, ce gros réac de Laurent Gérard. Voilà, donc tout le monde déteste Laurent Gérard.
Et aujourd'hui, une rubrique un petit peu spéciale, puisqu'on vous fait une petite rubrique éphémérite, puisqu'il s'en est passé des choses en ce jour de l'endive. Et oui, parce que le 4 novembre, c'est d'abord le jour de l'endive du chicon pour les intimes. Hein. C'est le jour de l'endive parce que les révolutionnaires avaient décidé de baptiser ce 14e jour du mois de brumaire du calendrier républicain, soit donc le 4 novembre, hein, dans notre bon vieux calendrier grégorien. Alors de rien pour cette info de qualité, hein, ça fait plusieurs mois que je planche dessus. Bref, on passe donc à l'éphéméride. Je disais qu'on avait découvert que pas mal d'événements survenus un 4 novembre avaient aujourd'hui un écho tout particulier. Et parmi ceux-ci, on commence tout de suite par l'assassinat d'Itsak Rabin.
Alors voilà, c'est le 4 novembre 1995, l'assassinat d'Isaac Rabin par un ultranationaliste juif israélien, Yigal Amir. Alors pour expliquer le contexte et en quoi ça fait écho avec ce qui se passe aujourd'hui, le 13 septembre 1993, Isaac Rabin, qui est le premier ministre israélien travailliste depuis 1992, serre la main d'un certain Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'Organisation pour la Libération de la Palestine, l'OLP, sous l'œil bienveillant de Bill Clinton devant la Maison Blanche. On connaît tous la magnifique photographie qu'il y a dans tous les livres d'histoire. Ces accords d'Oslo, ils sont issus d'une série de conférences pour la paix entre Israël et plusieurs de ses adversaires de l'époque, notamment la Syrie, la Jordanie et puis le Liban. On rappelle notamment que l'envahissement du Liban, du Sud-Liban, date du début des années 80 et qu'il a fait plus de 20 000 morts côté libanais et réfugiés palestiniens. Alors ce cycle de conférences, il commence à partir de 1991. En juillet 92, le Likoud, la droite israélienne, perd les élections et c'est donc Yitzhak Rabin qui devient Premier ministre. Les contacts avec l'OLP de Yasser Arafat étaient complètement coupés à ce moment-là, la direction de l'OLP ayant été obligée de migrer de Beyrouth à Tunis après l'invasion du Sud-Liban. Des tractations secrètes se sont alors organisées à Paris pour déboucher sur une reconnaissance entre l'OLP et Israël. Et c'est ainsi que se construisent les accords d'Oslo, on passe les étapes, concrétisés en septembre 93 à Washington. Alors beaucoup de gens à l'époque vont dire, y compris d'ailleurs aujourd'hui des historiens, qui raconte pas mal de conneries, que c'était un accord de paix formidable, le rôle de la France, des États-Unis, etc., etc. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que ces accords d'Oslo, ils ont un caractère profondément inégal. L'OLP, à ce moment-là, reconnaît le droit d'Israël à vivre en paix et en sécurité. Quand Tel Aviv reconnaît l'OLP comme le représentant du peuple palestinien. Et point. Et surtout, ces accords d'Oslo, il y a une suite, c'est les accords d'Oslo 2 qui sont signés en 95 et qui consacrent la division de la Cisjordanie en trois zones A, B et C, et c'est encore le cas aujourd'hui. La zone A, ce sont les principales villes dont l'armée israélienne s'est retirée depuis 67 et qui est sous contrôle de l'autorité palestinienne, soit 3% du territoire. La zone B, ce sont les zones palestiniennes où Israël est en charge de la sécurité et qui couvrent la majorité des 400 villages palestiniens de l'époque. Et la zone C, c'est 70% du territoire. Elle reste totalement aux mains d'Israël, dont Jérusalem-Est. C'est donc un accord profondément inégal qui ne participe en rien à mettre un stop à la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Éventuellement et au mieux, il le ralentit, mais il entérine de fait l'intégration par la force de 70 à 80% de la Cisjordanie. Donc c'est pas du tout un truc de gauchiste, rien à voir. Et pourtant, la droite et l'extrême droite israélienne à l'époque enrage depuis 93. Yitzhak Rabin est la cible d'une véritable campagne de haine menée par le Likoud d'un certain Benjamin Netanyahou. Des militants ultranationalistes d'extrême droite commencent à se faire connaître par leur virulence, comme un certain Itamar Ben-Gvir, aujourd'hui ministre de la Sécurité nationale du gouvernement génocidaire de Netanyahou. Pourtant, Rabin, c'est vraiment pas un anticolonialiste, comme le Parti travailliste d'ailleurs. Son parcours est pour terminer, on dit très long. D'abord, il est membre de commandos armés sionistes dans les années 40. Il devient officier de l'armée en 47. Il est commandant de la jeune armée israélienne en 48. Donc, la Nakba, il connaît bien. Et il fait une très grande ascension pour devenir chef d'état-major, notamment de Tzal en 64, juste avant la guerre des six jours de 67. Donc, c'est pas du tout un anticolonialiste, très loin de là. Et pourtant, il se fait assassiner le 4 novembre 95 par un ultranationaliste juif mécontent des accords d'Oslo dans ce contexte particulier. Et c'est donc Benjamin Netanyahou qui lui succède au poste de Premier ministre déjà en 95.
Et on poursuit donc notre éphéméride avec le 4 novembre 2018 qui marque donc le premier référendum pour l'indépendance de la Kanaky. On en a déjà beaucoup parlé ici, des révoltes actuelles. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'excellente interview du 7 octobre, je crois, qu'on avait faite sur notre qu'on vous pouvez retrouver sur notre audioblog, pardon. Ça vous permettra de mieux comprendre le déclencheur de la révolte, notamment toutes les questions autour du dégel du corps électoral. Aujourd'hui, je vais donc surtout vous parler du processus référendaire qui a été prévu par les accords de Matignon en 88, puis ceux de Nouméa en 98. Donc en 88, après une période sanglante, alors surtout pour les Kanaks évidemment, les accords de Matignon sont signés. Ces accords, ils vont poser les garanties d'un développement économique et social et la perspective encore très floue pour les Calédoniens de se prononcer sur leur indépendance à moyen terme. En 98, ce sont les accords de Nouméa qui vont constituer, alors pour le coup, pour la plupart des indépendantistes, une véritable avancée, puisqu'ils le considèrent vraiment comme un accord de décolonisation. C'est en effet de haute lutte hein, que les Kanaks sont venus arracher ces garanties et cette perspective décoloniale. Ces accords y prévoyaient donc la tenue de 3 référendums sur l'autodétermination, mais également le transfert de nombre de compétences de l'État colonial vers la Kanaky. C'est donc le 4 novembre 2018 qu'est organisé ce premier référendum. Alors en fait, c'est le deuxième, si on compte celui de 87 qui a été boycotté par les indépendantistes. Mais voilà, c'est le premier qui n'est pas boycotté. Il est marqué, le scrutin il est marqué par une forte participation, hein, plus de 80%. Et malgré la défaite du oui, c'est une victoire relative pour les indépendantistes, puisque ces résultats viennent contredire totalement les sondages qui les voyaient très largement perdants. Le non l'emporte en effet à un peu plus de 56%. Alors comme pour la plupart des élections, hein, les résultats ils vont venir révéler des disparités extrêmement importantes entre Kanak et Caldoche, qui ont vraiment une dimension territoriale. Hein. Nouméa est la province sud la plus riche, concentre évidemment le vote pour le non à plus de 75%, tandis que des territoires plus populaires votent oui. C'est des clivages qu'on retrouve aussi selon les quartiers de Nouméa. Donc voilà, ce 4 novembre 2018, c'est une étape importante pour la lutte des Kanaks, hein, qui donne de grands espoirs à ceux-ci, pour le processus de décolonisation. Et oui, sauf que depuis, on sait à quel point Macron et sa bande n'ont eu de cesse de fouler aux pieds ces accords et d'empêcher par tous les moyens la perspective de l'indépendance de la Kanaky. L'État colonial défend plus que jamais ses intérêts en Kanaky, main dans la main avec les loyalistes, comme on a déjà pu vous en parler longuement par ici.
Et parce que le 4 novembre, c'était aussi, en 1970, l'accession au pouvoir du socialiste Salvador Allende, renversé par un putsch fasciste mené par le général Pinochet le 11 septembre 1973 avec le soutien des États-Unis, ça nous permet de rappeler que les élections pour faire face au fascisme, c'est bien, mais c'est bien souvent pas suffisant. Voilà, ça c'était cadeau, gratuit, comme ça. Et tout de suite, on vous met une petite musique du Chilien, Victor Jara, El Derecho de Vivir en Paz.
Victor Jara qui a payé de sa vie ce putsch au Chili.
Ningún cañón borra
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Vous écoutez le Canu Info du lundi 4 novembre. On vient d'écouter El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. Et on passe tout de suite à notre rubrique.
International.
Avec ce subtil jingle, on commence tout de suite par parler du côté de l'Espagne pour parler du désastre humain en Catalogne.
Ouais, en trois jours.
À Valence, pardon.
Ah ouais, c'est vrai ça.
N'importe quoi.
Très mauvais lancement, mais c'est pas grave, à Valence.
Nickel.
Mais tout le monde avait compris. En trois jours, du 29 octobre au 1er novembre, l'Espagne, et plus particulièrement la région de Valence, a fait face à des immenses inondations mortelles. Il y a au moins 210 morts, dont la très grande majorité dans la région valencienne. Le désastre, il est humain, il est terrible, mais il est aussi matériellement très très important. Cette tragédie, elle révèle deux choses. D'abord, une gestion particulièrement catastrophique de la coalition au pouvoir d'extrême droite et de droite extrême, lorsqu'elle dirige une région, comme c'est le cas de Valence. Et puis, ça révèle aussi la violence patronale. Alors, pour expliquer, en 2023, cette région de Valence, elle a été gagnée par une coalition entre le PP, le Parti Populaire, la droite, et le mouvement néo-fasciste Vox, en pleine ascension en Espagne. La ligne du PP est encore de Vox est très clair, l'écologie c'est de la merde et le climat va très bien. Donc ils sont ouvertement climato-sceptiques. Les premières mesures prises par la coalition à la tête de la Généralité de Valence sont d'ailleurs particulièrement incroyables. D'abord la suppression d'une loi mémorielle condamnant le franquisme, ensuite la suppression d'une loi sur les violences conjugales, et puis le démantèlement complet de l'unité de réponse aux urgences de Valence. Ce démantèlement concrétise donc la destruction d'un service public local qui a été créé par la gauche, qui existait pour intervenir en cas d'urgence, notamment climatique. C'est vraiment pas de bol quand même de l'avoir supprimé. De plus, Carlos Mazón, à la tête de cette bien belle coalition, et ce alors même que les services météorologiques espagnols avaient annoncé 5 jours avant la tempête et émis une alerte rouge, a annoncé le mardi 29 vers 13h, je cite en français bien sûr, hein, d'après les prévisions, la tempête se déplace et l'on s'attend à ce qu'elle perde en intensité aux environs de 18h dans la communauté de Valence. Pas de bol à nouveau, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Et là encore, Carlos Mazón et son gouvernement local ont été incapables de coordonner efficacement les secours qui se sont mis en place à partir de mercredi. Faut dire que leurs amis du patronat local ont bien brillé eux aussi et ont du sang sur les mains. Dans le secteur alimentaire, de la restauration ou de la vente, les livreurs ont continué à être envoyés par leurs patrons en pleine tempête parcourir des rues complètement inondées. Nombre d'entre eux et elles ont été pris au piège dans ce secteur, celui de la livraison donc particulièrement précaire et majoritairement racisé. Des entreprises comme Amazon ou Mercadona sont particulièrement responsables. Les patrons sont décidément prêts à tout pour poursuivre leur course effrénée au profit. Ici comme là-bas, on n'oubliera pas ce que fait l'extrême droite au pouvoir, on pardonnera pas ce que fait le patronat aux travailleurs, aux travailleuses.
Et attention, breaking news, le patronat fait n'importe quoi.
Oui, 4 mois après avoir distribué 4,5 milliards d'euros à ses actionnaires, la direction du premier groupe automobile européen, Volkswagen, a dénoncé l'accord sur la sécurité de l'emploi en vigueur depuis 30 ans, valable pour 120 000 salariés. Elle leur demande 4 à 5 milliards d'euros d'économies, soit l'équivalent des sommes parties en dividendes dans la poche des actionnaires. Mercredi 30 octobre, la direction du constructeur allemand a demandé une réduction